Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
J'ai l'impression de revivre le débat initial sur la loi 101, parce que la question qu'on pose ce matin, elle résonnait beaucoup à l'époque du bon docteur Camille Lorrain. Est-ce qu'avec une nouvelle loi 101, les entreprises, et on pense principalement aux multinationales, vont être réticentes à venir s'installer au Québec? Luc?
Mais c'est ce qu'a déclaré hier Michel Leblanc en se présentant à la commission parlementaire. Et puis, effectivement, il a ressorti les vieux arguments de 1978, tels quels, là, tu sais... les multinationales, s'ils sont pas capables d'embaucher avec en exigeant une autre langue que le français, ne seront pas capables, vont déménager à Toronto. Le fameux déménagement à Toronto. Et bien, camions de déménagement sont toujours prêts sur le bord pour de Toronto. Et puis les camions de la Brinks aussi. Alors, puis son deuxième argument, c'est il faudrait pas exiger des gens qui viennent ici avec un permis, un certificat temporaire de travail, qu'au bout de 3 ans, leur enfant aille à l'école française. Il faudrait qu'on puisse renouveler le certificat permettant aux enfants d'aller à l'école anglaise de 3 ans en 3 ans, parce que eux autres aussi vont partir à Toronto. Bon, moi, j'aimerais rappeler à M. Leblanc un petit événement qui s'est passé l'an passé. Quand la Banque Laurentienne a engagé une nouvelle présidente qui ne parlait pas un mot de français, qu'est-ce qu'elle a dit, la nouvelle présidente? Ben, je vais l'apprendre. C'est ça qu'elle a dit. Elle est présidente de la Banque Laurentienne. Elle vit à Toronto. Elle opère d'ailleurs à partir de Toronto, le plus clair de son temps. Elle a dit, ben, je vais l'apprendre. Alors, si c'est bon d'engager une personne unilingue anglophone pour un poste de haute direction, puis que d'accepter l'idée selon laquelle elle va l'apprendre, c'est la même chose pour un francophone. Tu l'engages avec très bonne capacité de s'exprimer en français, d'écrire en français. Puis si tu parles pas anglais, ben je vais l'apprendre. C'est la même chose. C'est ça l'esprit d'ailleurs de la loi, c'est de dire on doit amener des francophones vers des postes de direction, vers des postes ouverts sur le monde, qui sont capables de s'exprimer en anglais. D'ailleurs, la plupart sont capables de le faire à ces niveaux-là. Alors, M. Leblanc, de nous faire croire que les seules personnes capables de remplir ces postes-là, ce sont des personnes temporaires qui habitent à l'étranger, qui travaillent pour des multinationales, qui habitent à l'étranger, qui sont de l'étranger aussi. De quel monde il vit, Michel Leblanc? De quelle ville il rêve? Fait que c'est ça pour Montréal. On a des multinationales qui viennent s'installer ici, qui viennent de l'étranger. Elles attirent des travailleurs qui viennent de l'étranger. Ces travailleurs-là n'ont pas besoin d'apprendre le français, n'ont pas besoin non plus d'envoyer leurs enfants à l'école française. Puis par ailleurs, cette idée-là qu'ils vont partir à Toronto, c'est une question que je poserais. On est en pleine période de pénurie de main-d'œuvre. On est en pleine inflation. On est en pleine crise du français par ailleurs. Et sa solution est toujours la même. Attirer plus d'entreprises, attirer plus d'immigrants, à quelques conditions que ça soit, faut grossir.
Ben, dans le match qui a opposé hier, ou le bras de fer qui a opposé hier le ministre Jeanlin Barrette à Michel Leblanc, qui, faut-il le rappeler, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, moi, j'ai 1-0 pour Michel Leblanc. Parce qu'il y a l'esprit de la loi, Luc, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est que Montréal accueille sur son territoire de nombreux sièges sociaux. Je consultais des statistiques de Statistique Canada, des données de Statistique Canada. Tu vois, en 2019, là, c'est plus de 42 600 employés qui travaillent sur le territoire de Montréal et du Grand Montréal, qui sont physiquement là, qui évoluent dans les sièges sociaux. C'est 384 sièges sociaux pour Montréal. Ça, c'est un exemple concret de l'importance des multinationales pour Montréal. Évidemment, quand on dit sièges sociaux, là, ça se concrétise à des intensités différentes. Alors, Michel Leblanc, hier, il a manifesté la crainte qu'ont certaines entreprises et en affirmant par rapport à certaines dispositions de la loi 96 qui vient réformer la loi 101 en disant ça va fragiliser notre base d'affaires du Québec. Je peux comprendre que ça donne l'impression que le gars il crie au loup, mais faisons un tour de piste dans les entreprises du centre-ville de Montréal, Luc, puis c'est très commun, c'est très courant que des grands cabinets d'avocats, des grandes entreprises aient pour s'expriment en anglais, les employés s'expriment en anglais entre eux. Lorsque tu travailles, parce que lorsque tu as des relations avec l'étranger, malheureusement, souvent, c'est pas le français qui est la langue utilisée, qui est la langue parlée, ça va être l'anglais ou des fois une toute autre langue. Alors, ce que la loi 101 vient dire, c'est si tu veux exiger de la part de ton employé la connaissance d'une autre langue que le français, ben tu vas devoir faire des démonstrations encore plus sévère, en fait. On va t'imposer des règles encore plus strictes. Et c'est ça qui inquiète Michel Leblanc, parce qu'il dit que ça retire de la flexibilité à nos entreprises.
Ouais, pour être précis, Nathalie, ce que Michel Leblanc a dit qui a fâché Jeannette Barrette, c'est qu'il a dit, est-ce que les fonctionnaires vont venir vérifier le niveau d'anglais?
Ben, il a raison.
Et c'est ça qui a fâché Jeannette Barrette.
Ben, il a raison.
Non, parce que Jeannette Barrette a dit, depuis quand c'est comme ça? Ce qu'on demande, ça a jamais été comme ça. Il y a jamais eu de police de la langue qui vérifie si la personne qui a rempli son formulaire prétendant qu'elle allait apprendre le français ou que ce poste-là exige la connaissance de l'anglais. Il y a jamais eu de police qui a vérifié ça.
Mais c'est dans la loi. Tu sais que c'est de la loi plus stricte.
Non, non, c'est pas dans la loi.
Oui,
non.
Les articles,
non.
Je vais te les dire.
Excuse-moi. Ce que moi je dis, c'est pas dans la loi. C'est-à-dire, qui va vérifier? Qui va appliquer et qui va vérifier quel va être le niveau de souplesse de l'application d'un article qui dit qu'on veut pas qu'on demande l'anglais pour n'importe quel poste. Ça, c'est pas dans la loi. C'est à définir. Et ce que M. Jolin Barrette dit, c'est donnez-nous, avant de dire que tout le monde va se sauver à Toronto en courant, là, donnez-nous au moins le bénéfice du doute de la possibilité d'appliquer cette chose-là de façon intelligente. C'est-à-dire, si la personne elle travaille tous les jours sur l'achat de marché de matières premières à Toronto puis à Chicago, oui, on va exiger l'anglais. Mais là, pour l'instant, c'est 40% des employeurs de Montréal qui exigent l'anglais. 40% des employeurs de Montréal exigent. C'est trop. C'est juste trop.
Mais c'est trop, mais Luc, tu évolues dans un environnement qui commande des relations, par exemple, avec la planète ou avec certains endroits sur la planète. Pourquoi
Dans ce cas-là, c'est bien clair que l'anglais va être une condition d'embauche.
Ben, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça la réalité.
Oui, oui, ça va être ça qui va se passer. Oui. Ça va être une condition d'embauche. Même avec la nouvelle loi, va être une condition d'embauche.
Un n'empêche pas l'autre. Montréal, effectivement, peut affirmer son statut de métropole francophone. Elle peut l'affirmer de façon forte, de façon fière. On peut prendre des dispositions dans la loi, effectivement, pour s'assurer de mieux protéger notre français, de mieux l'écrire, de mieux parler, d'en faire la promotion et de reconnaître le français langue commune au Québec, même de l'enchâsser dans la Constitution. Mais je trouve qu'il y a une différence entre l'esprit de la loi et la réalité. Et j'ajouterai à mon argumentaire, oui, il y a eu le débat entre Michel Leblanc et Simon-Jolin Barrette, mais allez voir ce que Pierre Fitzgibbon pense de l'importance des sièges sociaux à Montréal. Pierre Fitzgibbon, c'est un gars qui défend l'idée que Montréal doit non seulement protéger ses sièges sociaux, mais oui, doit en accueillir davantage. Alors, je vous prédis un tête-à-tête un peu plus tendu, selon moi, entre Pierre Fitzgibbon et Simon-Jolin Barrette.
Jolin Barrette pourra répondre à Fitzgibbon. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Montréal est reconnu pour avoir 4 universités d'importance. C'est une ville bilingue à cheval sur l'Europe et l'Amérique du Nord en termes de culture. C'est évident que les entreprises vont continuer d'arriver ici. Et c'est évident qu'elles ne prendront pas nécessairement le chemin de Toronto. C'est le premier argument. Le deuxième argument, si toi, Nathalie, demain matin, tu avais un contrat de consultation au Mexique, moi, je te connais. Tu te précipiterais dans un cours d'espagnol. Tu irais pas là, le nez au vent, en disant, ben, ils vont s'arranger puis ils me comprendront. Non, ça, c'est de l'impérialisme. Tu ferais pas ça.
Non, mais
puis si t'avais un contrat en Allemagne.
Mais là, c'est toi, Luc, qui véhicule une idée, un préjugé des années 70, du passé, parce que moi, je pense qu'il y a des travailleurs qui évoluent dans les sièges sociaux à Montréal, les grandes entreprises, les gestionnaires, qui font un effort pour apprendre le français. Moi, je pense qu'il y en
a... mais c'est juste ça qu'on veut. C'est juste ça qu'on veut.
Je pense qu'il y en a qui le font. Prends, par exemple, le siège social de l'Organisation de l'Aviation Internationale Civile, OIC, là, à Montréal. Là. Ben, écoute, penses-tu que ce monde-là, tous les jours, évolue en français dans leur communication? Non! Ben non, absolument pas. Alors, moi, je vois pas d'incompatibilité entre les objectifs qui sont visés dans la loi et la réalité vécue par le terrain. Ce que, dans le fond, Michel Leblanc a exprimé, c'est dire, vous nous imposez davantage de contraintes, nous, on aurait besoin d'un peu plus de flexibilité.
Mais Mais la, attends, la non, ce qu'il demande, c'est pas la flexibilité. Le style de Michel Leblanc, c'est pas de demander la flexibilité. Dans tous les domaines, Michel Leblanc, c'est le harangueur des capitalismes de base et un retour aux arguments de 1976. Mot pour mot, les mêmes arguments qu'en 1976.
Je vous arrête là-dessus. C'était animé, c'est bon ça. Au retour, aucun achat de véhicules neufs à essence.
Ouais, à partir de boy, dans 100 ans.
Non, non, pas dans 100 ans, 2035. Ah, okay, 15e d'année. Est-ce que c'est réaliste?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, la cible du gouvernement, faire en sorte que après 2035, pas d'achat de véhicules neufs à essence. Est-ce que c'est réaliste? Nathalie?
Absolument. Et là, je sens que Luc va faire la vague. En fait, le bon ministre de l'Environnement, et là, je regarde Luc en le disant, Benoît Charrette, s'est fait, a eu des reproches hier par QS, entre autres Manon Massé, qui lui a dit, vous manquez d'ambition, monsieur le ministre. C'est pas 2035 qui devrait être la cible du Québec, c'est 2030. Moi, je dis, le ministre, non seulement a eu la bonne réponse, mais le ministre est réaliste en ayant établi une cible comme celle-là. Pourquoi? Parce que la plupart des constructeurs qui vont faire un virage, ben, en fait, qui n'auront d'autre choix que de faire un virage en matière de véhicules électriques, sont tous ou à peu près là alignés sur 2030 ou 2035. Alors, devancer cette cible à 2030, moi, je pense que non seulement ce ne serait pas réaliste, mais il y aurait peut-être un problème de disponibilité de véhicules électriques. Lorsque j'ai dit ça, ce qui est fantastique, c'est que le Québec, les Québécois, les consommateurs québécois ont un appétit grand et grandissant pour les véhicules électriques. La preuve, c'est qu'au Québec, c'est au Québec que se sont vendus le plus de véhicules électriques. Ce que le gouvernement vise, c'est 1,5 million de véhicules électriques sur nos routes en 2030. 2030, alors c'est quand même 2030, là, c'est le même matin, là, c'est dans 9 ans. Mmh. Alors moi, je trouve que... Puis il faut saluer non seulement cette décision du gouvernement, mais là, le gouvernement s'apprête à inscrire dans une loi cet objectif.
Oui.
Ce serait une première. Et sur la planète actuellement, il y a une vingtaine de pays qui ont décidé de se fixer une cible 2030-2035. Alors, je trouve qu'on est très... En fait, non seulement on est aligné sur le bon calendrier, mais on fait partie des juridictions sur la planète qui sont les plus ambitieuses en la matière.
Ouais. Ça sera pas facile à matin. Toi, excuse-moi.
Deux gros sujets. Hein?
Relève tes manches, mon
Luc. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, Charrette a décidé de lutter contre le réchauffement climatique, mais à son propre rythme. Le ministre Benoît Charrette a décidé de lutter contre le changement climatique, mais à son propre rythme. S'il cherche un porte-parole pour défendre sa campagne, mais il y a un artiste qui est tout trouvé pour le faire.
Qui?
Ben, Guillaume Lemaitre-Lutivierge. On va le faire à son propre rythme, hein? C'est pas la question, c'est quoi notre rythme? Ben, c'est pas la question du rythme, la question, c'est quoi les besoins de la planète? Si Manon Massé a posé cette question-là, c'est pas qu'elle s'est levée un matin puis qu'elle a dit « Ah, ben là, je vais aller écœurer un peu le ministre. » C'est pas ça. C'est que le GIEC a déposé un rapport catastrophiste, mais néanmoins extrêmement complaisant. Le rapport a beau être catastrophiste, il est très conservateur. Et ce rapport-là dit quoi? Le 1,5 degré qu'on attendait en 2050, il va être en 2000. On peut penser qu'il pouvait être aussitôt qu'en 2030. Et donc, il faut modifier rapidement les façons dont on fonctionne. La planète, en ce moment, les États de la planète ont... selon les cibles qu'ils ont déposées, il y a 49 des pays qui ont déposé des cibles seulement, des 100 quelques pays, et ça donne 16% d'augmentation des gaz d'ici 2030, puis après ça, ça va baisser. Or, il faudrait 45% de réduction des gaz, selon les nouveaux calculs du GIEC. Le GIEC non plus, ils ont pas fait ça parce que ça leur tente de faire peur au monde. Ils ont fait ça parce qu'il y a des impacts réels. Il y a une affaire qui s'appelle le point de bascule en environnement. Point de bascule, ça veut dire t'as un moment où la planète réchauffe tellement que tous les efforts que tu peux faire ne servent plus à rien parce que la planète émet elle-même ses propres impacts générant des gaz à effet de serre. Par exemple, des incendies de forêt. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud, boum, il y a des incendies de forêt. À partir du moment où il y a des incendies de forêt un peu partout sur la planète, t'as beau réduire ta consommation d'air climatisé ou de voiture, il est trop tard. Les incendies de forêt vont produire tellement de chaleur, tellement de gaz, tellement de soufre que il est trop tard pour commencer à réduire progressivement. Je sais qu'on veut tous être progressifs, mais la planète en ce moment dans un scénario qui ne l'est pas progressif.
Mais Claude, Luc, oui. Je comprends que la planète brûle, que le feu est pris, je comprends tout ça. Mais c'est pas vrai que tu peux, dans un claquement de doigts, entreprendre une révolution sur le plan de l'automobile sans qu'il y ait une transition. Et sais-tu ce que ça représente pour des constructeurs comme GM, les Ford, des dizaines de milliards d'investissements pour faire la conversion?
Bon, ça, c'est tout à fait vrai, Nathalie.
Bon, ben, alors, à ce moment-là, regarde. Luc, je comprends là, que tu veuilles qu'on aille plus vite. Là. Je suis d'accord avec toi. Là. Sauf que, à un moment donné, il y a un test de réalité auquel on est confronté. Il y a ça. Puis au Québec, là, il y a un engouement, mais il faut aussi, comme société, installer, par exemple, toute l'infrastructure liée aux bornes de recharge.
Oui, mais regarde. Ben,
il faut se préparer à ça.
Bon, je suis d'accord avec toi. Je vais te donner les arguments qui soutiennent ta théorie.
Oui.
Puis elle est vraie. C'est-à-dire qu'en ce moment, juste la base, juste l'extraction du silicium, parce que les batteries sont faites avec du silicium.
Oui.
L'extraction du silicium, on n'a pas la capacité d'extraire assez de silicium pour rejoindre les objectifs, pour construire assez de batteries qui permettent de rejoindre les objectifs.
Mais il n'y a pas juste du silicium, il y a bien d'autres affaires là-dedans.
Oui, effectivement, mm-hmm. mais juste ça déjà en partant.
Mm-hmm.
Puis après ça, il y a plein de métaux rares, effectivement, tu as raison, des terres rares. Juste ça, on n'est pas capable. Après ça, le recyclage des batteries, on n'est pas capable, on n'a pas la masse actuellement d'usines capables de recycler des batteries. Tout ça est vrai. Mais, la voiture électrique, conçu comme le remplacement de la voiture à essence,
oui.
avec la même puissance, la même grosseur, le même nombre de véhicules parcourus, le même nombre de fois où tu l'utilises par semaine, c'est irréaliste
ben
de
non,
transférer. C'est impossible de transférer du pétrole à l'électricité si tu gardes toutes les mêmes composantes pareilles, ben toutes les mêmes variables pareilles.
Ben, premièrement, c'est probablement l'argument qu'on devait évoquer lorsque Ford a mis en marché sa première voiture. Ça allait pas vite, là. Rappelle-toi, là. Ça allait vraiment pas vite, là. Et,
ben, c'est ça. Mais je me permets une question parce que j'ai quelqu'un plus à gauche que toi qui m'a écrit tout
ouais.
ça.
Ah, ça arrive. Hein.
Ça arrive. Lui, il dit que demain matin, renouveler le parc automobile par des véhicules électriques, on règle absolument rien.
Totalement.
C'est-à-dire,
mais c'est ce que j'essaie.
C'est-à-dire que, un, les problèmes de congestion vont demeurer. Si t'as autant de véhicules électriques, d'une part, puis là, quand tu parles des pièces, parce que les batteries et tout ça, il dit que oui, tu vas peut-être avoir un effet. Puis surtout, il a l'impression que les gens vont avoir une meilleure conscience. Puis là, ils vont se tourner vers l'auto électrique puis ils vont l'utiliser plus qu'avant.
Mais il y aura moins d'émissions de GES, ça, c'est clair.
Oui, mais attends. C'est parce que si tu prends un F-150, tu le mets électrique,
oui.
tu n'as aucun gain environnemental, zéro.
Mais pourquoi tu dis qu'aucun gain environnemental?
Parce que
tu
as besoin de tellement de batteries pour le faire fonctionner que les batteries, la part de CO2 générée par la construction des batteries est équivalente à si tu étais resté à l'essence. Il y a trop de batteries. Même une Tesla qui est capable, la nouvelle, là, je sais pas c'est quoi son nom, là, 800 km d'autonomie, il y a trop de batteries dedans. C'est pour ça que je te dis, pour être capable de faire une révolution, il faut que tu fasses un changement d'organisation, de l'aménagement du territoire, de nos villes, etc., des bornes de recharge aussi, où tu utilises moins de batteries, moins souvent.
Ben la technologie, ouais, mais on va s'améliorer sur le plan technologique. C'est pas vrai que c'est arrêté dans le temps. On parle même d'une voiture électrique avec 2000 km d'autonomie.
Mais faut pas le faire.
Ben on va faire quoi? On revient aux chevaux?
Les matériaux que tu dois extraire pour faire une batterie qui est capable d'avoir 2000 km d'autonomie, il y en a juste trop. Ça exige tellement de matériaux.
Alors c'est quoi l'alternative?
Ben l'alternative, c'est d'utiliser des plus petites voitures qu'on va utiliser un peu moins souvent, un peu moins longtemps. C'est ça. C'est d'avoir, et ça, M. Charrette pourrait travailler à ça. C'est-à-dire, au lieu de dire, bon, ben là, c'est en 2035, je vais jouer au sudoku, il dit, ben, c'est quoi qu'il faut faire en attendant pour qu'on en ait moins besoin?
Ça, c'est le gars du plateau qui parle, qui pense pas à la personne qui doit partir de Rouyn-Noranda pour recevoir des services, par exemple, des services en santé à Montréal.
C'est ce qu'il faut réorganiser.
C'est le gars qui parle des Laurentides qui vient
ben
tous
voilà.
les jours travailler à Laval.
Ben, c'est ce qu'il faut réorganiser. Moi, j'en connais bien du monde qui habite dans les Laurentides parce qu'ils aiment les chevreuils et pas parce qu'ils en ont besoin.
Ben là, mais tu réponds quoi aux Gaspésiens qui doivent, je sais pas, se déplacer pour recevoir des traitements oncologie à Rimouski ou même à Québec?
Ça, Nathalie, tu vois, c'est l'argument qu'on m'a toujours opposé. Puis la réponse, c'est lui, il faut absolument lui donner tous les moyens pour qu'il vienne à Montréal, la manière qu'il veut, en uranium, en pétrole, en n'importe quoi.
Mais non, mais
parce que
Luc,
c'est pas lui qu'on vise. On vise pas la personne qui a des traitements d'oncologie. On vise la personne qui s'est achetée. Oui, mais justement, il faut qu'il y ait des services en région, que la personne soit pas obligée de venir à Montréal, il faut qu'il y ait des emplois en région, que les personnes soient pas obligées de se déplacer de Saint-Sauveur, il faut que par exemple qu'il y ait à Saint-Jérôme, il faut réorganiser notre mode de vie pour qu'on ait à moins se déplacer, c'est ça la solution.
Ça ressemble
de
à la pensée magique ce que tu dis là, je comprends que l'ambition dans la vie, je comprends que c'est tout ça c'est bien beau, mais
c'est
mais
aussi
ça
magique
à la
de croire
magique.
Qu'on va remplacer le pétrole par l'électricité du jour au lendemain. C'est ça aussi, c'est magique.
Ben non, ça veut dire que c'est pas vrai qu'on va le faire du jour au lendemain. Luc, moi, c'est pas ça que
même,
je dis.
Même
ça prend une transition.
Écoute, même quand ça va être fait, là je te parlais des matériaux composant la batterie. Après ça, il faut mettre de l'électricité dans ce maudit batterie-là.
Ouais.
Au Québec, c'est super, on a de l'hydroélectricité.
Ben oui, absolument.
Mais dans bien des parties du monde, le fait de faire la transition vers l'éolien puis le solaire et le géothermique va faire qu'ils vont avoir moins d'électricité disponible.
On s'arrête là-dessus. Je veux pas me mêler de votre conversation, là, mais je dois récupérer les rênes de l'émission pour aller à la pause. Merci, à demain.
C'est pas
t'as bien. Attends que les micros soient fermés avant de faire des commentaires sur sa coupe de cheveux, là, quand même. Là. C'est ça, il est incorrigible.
C'est 23.